Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 31 mars 2017. En direct de Washington, Idriss Assidoudia et Anne Albertson. Nous commençons avec les titres.
République démocratique du Congo, une réduction du nombre de militaires et de policiers de la MONUSCO doit être approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Fin hier à Abidjan de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence.
Au Nigeria, grave pénurie de vaccins face à une épidémie de méningite qui a déjà fait 282 morts depuis novembre.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a limogé son ministre des Finances et détracteur Pravin Gordhan.
Ici aux États-Unis, Michael Flynn, l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président Trump, prêt à témoigner en échange d'une immunité.
Le sort du président Assad à long terme sera décidé par le peuple syrien, déclare le secrétaire d'État américain Rex Tillerson.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Sauf surprise, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit approuver aujourd'hui la réduction de 7% environ du nombre de militaires et de policiers de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Mais les effectifs de la MONUSCO resteront très importants, Abdourahmane Dia.
Malgré cette réduction, la MONUSCO restera forte de plus de 18 000 hommes. Cette décision de diminuer les effectifs est en contradiction avec la volonté du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a récemment demandé au Conseil de sécurité d'envoyer 300 policiers supplémentaires à cause de la situation politique tendue en RDC. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré et la classe politique n'arrive toujours pas à s'entendre sur les modalités d'application de l'accord du 31 décembre. Les élections doivent être organisées avant la fin de cette année. Washington, premier contributeur des opérations de maintien de la paix, ne cache pas sa volonté de réduire sa participation dans les dépenses de l'ONU. La France, qui avait récemment mis en garde contre des coupes drastiques dans les effectifs et le budget alloué à la MONUSCO, s'est néanmoins dissatisfaite par le projet de résolution qui sera en principe adopté aujourd'hui.
Au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis 16 mois a été prorogé à partir de vendredi pour au moins 10 jours, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako le 20 novembre 2015, attaque qui a fait 20 morts. Outre deux assaillants tués, l'état d'urgence avait pour la dernière fois été prorogé de 6 mois le 30 juillet 2016.
Fin hier à Abidjan de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence. Dans son discours de clôture, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est revenu sur quelques défis qui jalonnent la longue marche vers l'émergence.
Ce sont notamment la paix et la sécurité qui constituent des préalables à tout développement. La bonne gouvernance à travers une lutte acharnée contre la corruption et la fraude. La maîtrise de la démographie et de l'urbanisation. Le défi du développement du capital humain. La diversification des économies et l'accélération de l'industrialisation. L'intégration économique et le renforcement des échanges intra-africains à travers l'exploitation des avantages comparatifs et compétitifs. Les travaux de la conférence ont mis fort judicieusement l'accent sur l'emploi des jeunes, un des plus grands défis du continent.
Le Nigeria est confronté à une grave pénurie de vaccins pour contenir une épidémie de méningite qui a déjà fait 282 morts depuis novembre, Jean-Roger Bion.
Le chef du Centre nigérian de contrôle des maladies, Chikwe Iyekwazu, a fait état de près de 2000 suspicions de méningite signalées dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Selon lui, 109 cas ont été confirmés et il y a eu 282 décès. La méningite de type C, responsable de l'épidémie, est rare au Nigeria et il existe un stock limité de vaccins dans le monde. Pour l'état de Zamfara, on estime qu'environ 3 millions de doses de vaccins seront nécessaires. L'OMS a livré 500 000 doses pour un programme d'immunisation qui doit démarrer le 11 avril. Une équipe travaille à déterminer le nombre total de doses nécessaires pour contenir la propagation de la maladie qui touche 15 des 36 États du pays et le territoire de la capitale fédérale, Abuja. En 2015, plus de 13 700 personnes ont été infectées et plus de 1100 sont mortes de la méningite au Nigeria et au Niger voisin.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est débarrassé hier de son ministre des Finances et détracteur, Pravin Gordhan, malgré le refus exprimé par ses alliés et les risques de rupture au sein du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir. Sans surprise, M. Zuma a attribué le portefeuille du Trésor à un de ses fidèles, le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba. Depuis plusieurs mois déjà, la bataille faisait rage entre Jacob Zuma, englué dans une litanie de scandales de corruption, et Pravin Gordhan, très respecté des investisseurs, autour de la bonne gestion des deniers publics.
L'administration Trump a étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes en Somalie contre les insurgés islamistes Shebab liés à Al-Qaïda. C'est ce qu'a annoncé hier le Pentagone.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Michael Flynn, a proposé au FBI et aux parlementaires enquêtant sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 d'être entendus en échange d'une immunité. C'est ce qu'a rapporté jeudi soir le Wall Street Journal. Cette offre a été faite à travers son avocat. On rappelle que M. Flynn avait été limogé pour avoir induit en erreur le vice-président américain Mike Pence sur ses contacts avec l'ambassadeur russe à Washington. Le fait que M. Flynn cherche une immunité suggère qu'il sent qu'il pourrait faire face à des ennuis judiciaires, explique le Wall Street Journal en citant un responsable. En seconde partie de cette édition, les audiences publiques de la Commission du renseignement sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Le sort du président Bachar al-Assad sera décidé par les Syriens, c'est ce qu'a affirmé hier le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Il s'agit à ce sujet de la première prise de position publique de la nouvelle administration américaine, Jacques Aristide.
Le chef de la diplomatie américaine s'exprimait lors d'une visite en Turquie aux côtés de son homologue Mevlut Cavusoglu au lendemain de l'annonce par Ankara de la fin de son opération militaire dans le nord de la Syrie. Le conflit, qui entre dans sa septième année, a fait plus de 310 000 morts. L'opposition syrienne réclame le départ du président Assad, tout comme l'a fait pendant longtemps l'administration de Barack Obama. Mais jusqu'à hier, le nouveau gouvernement américain n'avait pas ou peu donné de signes sur son implication diplomatique. Pour des observateurs, la position exprimée par Rex Tillerson en disant qu'il appartient aux Syriens de trancher rejoint la ligne défendue par Moscou, l'un des principaux alliés d'Assad. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs déclaré que Washington et Ankara partageaient le même objectif qui est de vaincre le groupe État islamique. La Turquie affirme de son côté vouloir travailler avec ses alliés, mais sans les milices kurdes, à la reconquête de Raqqa, la capitale de facto du groupe État islamique en Syrie.
Et la coalition internationale contre le groupe État islamique a annoncé hier avoir tué un responsable de la propagande du groupe djihadiste et de son équipe multimédia lors d'une frappe à El-Qaïm dans l'ouest de l'Irak samedi dernier. Ibrahim Al-Ansari était un important responsable du groupe État islamique qui a participé aux efforts pour recruter des combattants étrangers et encourager des attaques terroristes au couteau ou à la voiture bélier dans les pays occidentaux, a déclaré à la presse un porte-parole de la coalition, le colonel Joe Scroca.
En Israël, le cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahou a approuvé hier la création d'une nouvelle implantation juive en Cisjordanie, une première depuis 1999. Dans la journée, le Premier ministre israélien avait annoncé que son gouvernement allait concrétiser l'engagement pris pour reloger les colons d'Amona évacués du site jugé illégal par la Cour suprême israélienne car se trouvant sur des terrains privés palestiniens.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro concentre désormais l'ensemble des pouvoirs après la décision hier de la Cour suprême de faire main basse sur les prérogatives du Parlement. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est une escalade supplémentaire dans la crise politique qui agite le Venezuela depuis la large victoire de l'opposition aux élections législatives fin 2015. Peu après, la Cour suprême a déclaré nuls tous les votes de l'Assemblée nationale en réaction à l'investiture de 3 députés opposants à Hugo Chavez. Depuis, la Haute Cour n'a cessé de renier le pouvoir des législateurs. Le régime Maduro concentre à présent tous les pouvoirs, exécutifs, armés, justice et législatifs. C'est un coup d'État. Nicolas Maduro ne peut pas être au-dessus de la Constitution, a dénoncé le président du Parlement, Rolio Borges, en appelant l'armée à sortir du silence face à la rupture de l'ordre constitutionnel. La dernière décision de la Cour suprême est emblématique de cette prise de pouvoir. Les députés majoritairement d'opposition ont été privés mardi de leur immunité, ce qui les expose à de possibles procès pour haute trahison. Outre le choc des pouvoirs, le Venezuela est frappé par une pénurie qui concerne 68% des produits de base et l'inflation est devenue incontrôlable. Selon le FMI, elle atteindra 1660% fin 2017.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guériec.
Côte d'Ivoire, le prix du cacao enregistre sa plus forte baisse depuis 2012. Le prix minimum garanti aux producteurs et fixé par le gouvernement est passé de 11 000 à 700 francs CFA le kilo. Conséquence, les rentrées fiscales du pays sont affectées. Tous les ministères réviseront à la baisse leur budget, indiquent les autorités ivoiriennes citées par Jeune Afrique. Il faut dire qu'à l'échelle internationale, voilà 6 mois que les cours internationaux du cacao sont en chute. Et c'est dans ce contexte que le chocolatier Mars et le gouvernement renforcent leur partenariat. L'objectif pour le premier producteur mondial de la fève de cacao est d'assurer la durabilité de sa filière. Africa Finance Corporation a généré une excellente croissance en 2016. L'institution multilatérale panafricaine de financement et de développement de projets annonce une performance financière de 115 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 64%. Enfin, le développement des énergies renouvelables a de nouveau battu un record en 2016 avec plus de 160 gigawatts de nouvelles capacités installées dans le monde, selon le rapport annuel de l'Agence internationale des énergies renouvelables. En Afrique, 2 fois plus de nouvelles capacités installées en 2016 qu'en 2015, souligne l'AFP.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afrique aura 9 équipes à la Coupe du Monde 2026.
Oui, l'Europe devrait compter 16 équipes directement qualifiées à compter du Mondial 2026 qui passe à 48 équipes. Et du coup, l'Afrique devrait voir également sa participation augmenter de 5 à 9 équipes selon les recommandations adoptées hier par la FIFA. L'extension de la Coupe du Monde à 48 équipes contre 32 aujourd'hui avait été adoptée le 10 janvier dernier. Vous vous en souvenez, par la FIFA, c'était une proposition âprement défendue par son nouveau président Gianni Infantino. Le bureau du conseil de la FIFA, qui rassemble le président de la FIFA et les présidents de chacune des 6 confédérations qui la composent, s'est réuni hier à Zurich et s'est mis d'accord sur cette proposition de répartition des places. L'Amérique du Sud passera de 4,5 à 6 places.
Paul Tergat veut relancer le sport au Kenya.
Le double médaillé d'argent olympique du 10 000 mètres a déclaré qu'il se lançait dans la course à la présidence du Comité national olympique kényan. La décision d'organiser de nouvelles élections à la direction de ce comité fait suite aux scandales qui ont éclaboussé l'instance lors des JO 2016 et à des demandes pressantes du CIO. Début mars, le Comité international olympique avait gelé des aides financières au Kenya afin de presser le pays d'entamer une série de réformes.
Tennis tournoi de Miami, Venus Williams en forme.
L'Américaine qui affrontera en demi-finale aujourd'hui, la Britannique Joanna Konta. Elle s'est qualifiée mercredi pour la 8e fois de sa carrière pour les demi-finales du tournoi de Miami. Elle avait battu la numéro 1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber, en 1h39 de jeu. Le score 7-5, 6-3. Allez Drissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Brooklyn Nets et Détroit 89-90, Cleveland et Chicago 93-99, Los Angeles Lakers et Minnesota 104-119.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, c'est l'impasse, comme vous le savez, dans la mise en œuvre de l'accord politique. Le président Joseph Kabila s'est engagé à ramener les partis dans un consensus après le constat d'échec des évêques catholiques. Comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, Eddie Isango a interviewé à Washington le sénateur congolais leader de la plateforme « La nouvelle initiative pour le Congo », Florentin Mokonda Bonza.
Je pense qu'il était possible de pouvoir trouver une solution parce qu'on ne peut pas prendre un peuple en otage, on ne peut pas bloquer un pays, tout simplement parce que deux groupes de politiciens ne peuvent pas se mettre d'accord sur la formulation d'une phrase pour permettre au chef de l'État de pouvoir désigner le Premier ministre.
Le président Joseph Kabila a promis, après avoir rencontré les évêques, de s'engager pour ramener l'opposition et les pouvoirs dans un consensus. Comment le voyez-vous s'y prendre?
Personnellement, je ne crois pas beaucoup à cela parce que c'est au sein du dialogue, pendant que tout le monde était ensemble sous l'égide de la CENCO, que nous aurions pu nous mettre d'accord. Mais quand je me rends compte que jusque le 27 mars dernier, les violons ne se sont pas accordés, alors je crains qu'en dehors de ce cadre, parce que tout le monde faisait confiance aux évêques. Or, aujourd'hui, le rassemblement ne fait pas confiance au président de la République. Les présidents de la République semblent ne pas faire confiance aussi au rassemblement. Et même nous autres qui ne faisons partie ni à l'un ni à l'autre, nous nous méfions également et du président de la République et du rassemblement. Alors je ne crois pas que le cadre que le président de la République propose soit le meilleur pour pouvoir trouver une solution.
Est-ce que ce n'est pas là déjà ouvrir une porte à la violation de cet accord signé le 31 décembre que d'accepter trois noms?
C'est vrai que l'accord stipulait que le Premier ministre est présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre, bar rassemblement. Mais toujours dans l'accord, il y a un principe qui a été énoncé pour dire que le modalité pratique de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-avant, dont notamment la disposition qui concerne la nomination du Premier ministre, serait réglée par un arrangement particulier. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, mais en dernière minute, nous ne nous sommes pas mis d'accord, et principalement, il faut le dire, la majorité présidentielle et le rassemblement, l'accord dit que le Premier ministre serait nommé conformément à l'article 78 de la Constitution. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une consultation. S'il y a juste une personne, donc il n'y a pas de consultation. C'est comme si on imposait un choix à qui que ce soit, au président de la République. Je ne défends pas les présidents, je ne suis pas de son côté. Je commence à craindre qu'au mois de décembre, nous ne soyons pas en mesure d'organiser les élections. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre personnalité de l'opposition en dehors du rassemblement pour diriger le gouvernement et aller de l'avant?
De passage à Washington pour parler de la crise congolaise à l'atelier Africa Faith and Network, le sénateur Florentin Mokonda Bonza.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le département d'État a annoncé le retrait des troupes américaines à Obo dans le sud-est de la République centrafricaine à compter du 25 avril prochain. Ces troupes sont impliquées depuis 2011 dans la traque de Joseph Kony, chef de la tristement célèbre LRA ougandaise, coupable d'atrocités indicibles contre les populations civiles. Au micro de Félix Yepassis Zemrou, le député d'Obo, Ernest Misedio, exprime son inquiétude face à ce retrait.
L'annonce du département américain de retirer cette troupe nous laisse dans une grande peur. Obo, aujourd'hui, épargnés de tout ce qui s'est passé, les massacres de la Seleka, etc., etc., est guetté par au moins, en tout cas, une vingtaine de groupes armés inconnus qui n'attendent que cette occasion pour se jeter non seulement sur la ville de Bou, mais sur les villes du Mbomo. Parce que c'est grâce à la présence de l'armée américaine qui est suffisamment dissuasive que ces troupes-là n'ont pas attaqué ces villes.
Croyez-vous que ce retrait est lié au fait que depuis 2011, les troupes américaines n'aient pas réussi à mettre la main sur Jeff Kony? Autrement dit, selon vous, cette mission américaine a-t-elle été efficace ou pas?
L'arrivée des troupes américaines à Obo était une décision du président Barack Obama. L'arrivée de Trump amène une nouvelle politique. Si l'armée américaine, avec tous les moyens, avait mis tout en œuvre pour finir avec le phénomène de la LRA, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce n'est que petite affaire de rien du tout. 2011, on n'arrive pas à finir avec la LRA. Il y a des questions à se poser.
Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités centrafricaines pour pallier justement à ce vide laissé par des troupes américaines après leur départ?
L'appel est de tout mettre en œuvre pour que la formation des FACA entamée par le thème soit accélérée de façon à ce qu'on puisse avoir une troupe. Mais seulement, le blocage se trouve au niveau de l'embargo qui nous frappe, même s'il y a eu levée partielle et qui ne se traduit toujours pas dans les faits. Et je crois que le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de réhabilitation de l'armée pour qu'on ait au moins un bataillon envoyé à Obo, dans le Mbomo en tout cas, pour essayer de pallier à ce vide. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre.
C'était Ernest Mizedio, député d'Obo dans le sud-est de la République centrafricaine.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le mouvement Yanamar au Sénégal a appelé tous les Sénégalais à se mobiliser le 7 avril dans une manifestation pour dénoncer ce qu'il a appelé les dérives du pouvoir de Macky Sall. Cette campagne de contestation est baptisée « Trop, c'est trop ». Éric Manirakiza a joint à Dakar un des leaders de cette organisation, Malal Tala, dit « fou malade ».
Pourquoi trop c'est trop maintenant? Parce qu'en fait, nous avons observé un moment de grâce pour le président Macky Sall et que nous avons par voie de presse ou par voie artistique interpellé le président sur les dérives de son pouvoir par rapport à la justice, par rapport à l'environnement, par rapport aux différents paradoxes que nous avions notés. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il nous semble qu'on n'est pas bien entendu, que notre message n'est pas entendu. Il est important, comme nous l'avons toujours fait, mobiliser les Sénégalais autour des questions qui les concernent. La justice est une justice du peuple. Nous la voulons autonome et indépendante. Nous ne la voulons pas politicienne. Nous voulons en fait une meilleure information par rapport aux ressources et à leur répartition. Et c'est pour cela que nous avons appelé les Sénégalais à se mobiliser.
Vous avez joué le même rôle pour chasser Ouad. Est-ce que vous pensez que Macky Sall n'est pas différent de Ouad?
Il n'y a pas une grande différence entre Macky Sall et Ouad, parce que les principes pour lesquels nous combattions Ouad, c'est les mêmes principes pour lesquels nous sommes en train de combattre Macky Sall. Parce qu'il s'inscrit en porte-faux avec ses engagements. C'est la même chose, c'est les mêmes pratiques politiciennes qui continuent. Et les Sénégalais en ont marre de tout ça.
Et pourtant, vous l'avez accompagné pour arriver là où il est.
Non, nous ne l'avons pas accompagné. Nous avons combattu Ouad et ça a été une situation qui a profité à Macky Sall. C'est différent.
Vous avez tenté de bloquer la modification de la Constitution, mais vous avez échoué. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vous allez y arriver?
Non, nous n'avions rien tenté. Nous avons appelé pour respect de nos principes et pour être cohérents par rapport à nous-mêmes. Nous avions dit que Macky Sall a promis 5 ans. Il faut qu'il respecte son engagement. La parole donnée doit être respectée. Maintenant, il a proposé un référendum de 15 points qu'il a soumis aux Sénégalais. Et les Sénégalais ont voté. Notre rôle, c'est d'aller c'est d'amener les Sénégalais à comprendre ce qui se passe. Donc on ne peut pas parler d'échec à ce niveau.
La question de la justice, pourquoi vous ne faites pas pression à la magistrature elle-même?
Il y a les magistrats qui sont en train de mener le combat pour leur propre autonomie, mais il faut également que le peuple les soutienne. Tous les gouvernements qui sont arrivés utilisent la justice comme un instrument pour punir l'opposant ou bien pour casser un adversaire. Et pour nous, pour que notre démocratie avance, il est fondamental, voire même indispensable, qu'on ait une justice indépendante.
Joint à Dakar, Malal Tala dit fou malade.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Rabat, la capitale du Maroc, se met aux couleurs de l'Afrique pendant un mois avec une série d'expositions, de projections et de concerts dans le sillage de l'offensive diplomatique de Rabat sur le continent. Salwa Jafari.
Au musée Mohamed V d'art moderne et contemporain, les artistes parmi les plus célébrés d'Afrique subsaharienne exposent jusqu'au 28 avril. Les tableaux bariolés de Chéri Chérin côtoient ceux de Chéri Samba, les œuvres fantasques du fondateur de l'école du Zaïre dans la peinture populaire, Pierre Baudot, et les canevas du Nigérian Bruce Onobrak Peya, qui ont fait le tour du monde, sont maintenant visibles à Rabat. Mehdi Koutbi, peintre et président de la Fondation nationale des musées du Maroc, supervise l'événement.
L'essentiel, c'est de voir que le Maroc aujourd'hui, Rabat, ville lumière, capitale de la culture, est en train d'être un rendez-vous incontournable de la culture. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, un vrai pont entre l'Europe et l'Afrique.
Dans une autre salle du musée, un hommage est rendu à trois photographes africains, le Malien Malik Sidi Bé, surnommé l'œil de Bamako. Les Marocains Atmen Dilami et Leila Alaoui ont également présenté d'imposants clichés du Tunisien Wahib Chehata, installé au Mali, ainsi que les œuvres de l'artiste hip-hop congolais Koukal Tadi. L'artiste malien Abdoulaye Konaté nous parle de l'importance de cette initiative.
Le fait que le Maroc s'intéresse globalement à toutes les manifestations culturelles au niveau de l'Afrique, il se trouve que cette année, le Maroc est revenu dans la communauté africaine sur le plan politique. Le Maroc était déjà là dans le domaine économique et culturel.
18 endroits de la capitale marocaine accueillent 36 activités et 32 pays africains, avec du théâtre, des conférences, des concerts, un match de gala entre une sélection africaine et européenne. Le thème de l'Afrique est devenu incontournable au Maroc, alors que le pays mène depuis des mois une vaste campagne diplomatique, politique et économique sur le continent, couronnée à la fin janvier par le retour du royaume au sein de l'Union africaine.
Ici aux États-Unis, la commission du renseignement du Sénat a commencé des audiences publiques sur l'ingérence présumée de la Russie dans les dernières élections et la possible collusion entre Moscou et certains membres de l'entourage du président Donald Trump. Solange Niamoulissa fait le point.
L'enquête ira jusqu'au bout, ont assuré le sénateur républicain Richard Burr, président de la commission du renseignement du Sénat, et le sénateur Mark Warner, principal membre démocrate de cette commission. Celle-ci passera en revue une multitude de documents et interrogera diverses personnalités, notamment Jared Kushner, proche conseiller et beau-fils du président Trump. Ni le président de la commission du renseignement du Sénat, ni les membres démocrates n'ont révélé une quelconque conclusion formulée à ce stade en dehors des desseins de la Russie. Les sénateurs démocrates Mark Warner.
L'objectif de Poutine est d'affaiblir les États-Unis sur le plan économique et globalement. Ceci devrait préoccuper tous les Américains, quelle que soit leur affiliation politique.
La commission du renseignement de la Chambre des représentants avait pris l'initiative d'enquêter sur l'ingérence russe. Mais elle a annulé cette semaine les audiences publiques prévues à cet effet en pleine tempête politique autour de son président républicain Devin Nunes. Ces derniers avaient pris la décision controversée d'informer le président Trump au sujet des documents classés secrets qu'il n'avait pas encore partagés avec sa commission. Malgré les assurances d'impartialité du président de la commission du renseignement du Sénat, un nombre croissant de législateurs démocrates doutent que la vérité puisse être connue tant que l'enquête sera aux mains des commissions législatives contrôlées par les républicains. Un point de vue exprimé par le sénateur démocrate Martin Enrich.
Je pense que nous devons être ouverts à une commission indépendante, non partisane, pour mener une enquête sur ce qui s'est passé. On ne peut pas permettre à la pression politique ou aux distractions sans fondement de brouiller les faits.
La Maison-Blanche s'est plainte d'une campagne de dénigrement de l'équipe du président, mais a tout de même reconnu le besoin de faire progresser l'enquête. Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous voulons que ceci prenne fin le plus tôt possible, tout comme certains d'entre vous, j'ose le croire. Mais nous reconnaissons qu'il y a un processus à suivre.
Les conclusions de l'enquête pourraient résonner bien au-delà de Washington. Selon le sénateur Richard Burr, la Russie est activement impliquée dans les futures élections en France.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.